Orient Hebdo, Éric Bataillon.
L'année 2022 marque le centenaire de la guerre d'indépendance turque qui mènera à la création de la République moderne en 1923. Quelle influence cette guerre gagnée a-t-elle eu sur la société et notamment sur les activités qui fondent le roman d'un pays, à savoir la littérature, la peinture ou le cinéma? Lors d'un symposium à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, à Paris, nous avons rencontré Timur Muhyiddin, spécialiste de la littérature turque et ottomane, et Cemren Altan, critique d'art. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Timur Muhyiddin.
Bonjour Éric Bataillon.
Quelle est la place de la guerre d'indépendance dans le roman turc ?
Il y a une place thématique, bien sûr, mais il y a surtout une place historique maintenant, puisque c'est les débuts du roman turc moderne. C'est de là qu'il sort, c'est de là qu'il se développe. Alors au début, de manière un petit peu violente et cliché, c'est en direct, on raconte la guerre en direct, et puis petit à petit, ça devient du roman historique turc, et probablement les romans les plus lus de la littérature contemporaine.
Il y a un roman national autour de cela, aujourd'hui ?
Alors, c'est un jeu de mots pour nous, puisque roman national, c'est le nom qu'on donne, milli-roman, le nom qu'on donne à ce genre-là. Mais il y a effectivement un roman national aussi, de réécriture, de toute l'histoire républicaine, et qui s'accompagne... Alors, c'est en parallèle du roman impérial, puisqu'on raconte aussi dans la prose les époques ottomanes, les différentes périodes ottomanes. Donc c'est un peu en concurrence en réalité depuis une quinzaine d'années.
Est-ce que c'est un roman qui met essentiellement en exergue Atatürk ?
Non, très peu. Très peu, autant le grand poème de Nazım Hikmet qui s'appelle « L'épopée de la guerre d'indépendance » se termine sur la figure, ce qui est rare quand même en poésie, d'avoir une figure contemporaine qui est exaltée. Dans le roman, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas directement. D'ailleurs, finalement, c'est dans la plupart des cas, les combats, les batailles, la Sakarya, etc., n'apparaissent pas. Donc, c'est difficile de placer İsmet İnönü ou Mustafa Kemal. Non, ce sont des officiers emblématiques d'un état de l'armée, d'un état de la société à un moment donné.
Et justement de la société de l'époque, au moment de la guerre d'indépendance, 1919-1922, que retient le roman turc de l'époque et aussi aujourd'hui ?
Il retient, je dirais, essentiellement l'humiliation de la défaite, dans un premier temps, de l'occupation étrangère, des mères courage, de ces héroïnes de la nouvelle Turquie qui vont s'engager totalement, même au prix de leur vie. Donc en fait, des figures positives, un petit peu trop standardisées, mais qui expriment la renaissance nationale.
Alors la peinture ou le cinéma mettent en avant un certain récit avec les populations qui viennent aider les militaires dans les combats, qui mettent en avant aussi les femmes. Est-ce que c'est la même chose dans le roman turc ?
Non, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, déjà, le cinéma offre plus de possibilités. C'est toujours de l'idéologique ou de l'idéologie, mais de manière un peu plus subtile, parce qu'on peut jouer sur les couleurs, sur les costumes, etc. Dans le roman, c'est moins facile à faire. Souvent, c'est à travers le dialogue, ou bon, éventuellement des descriptions inspirées. Et puis, le cinéma en particulier, et les séries, puisqu'il y a aussi des séries historiques qui reprennent le thème de la guerre d'indépendance, sont beaucoup plus efficaces. Je dirais. Elles ne sont pas forcément plus fines que ne l'était le roman, mais elles sont beaucoup plus efficaces, elles vont plus directement au sentiment patriotique que c'était le cas précédemment. La peinture, les beaux-arts, le domaine le plus intéressant, parce que le plus intellectuel, on réfléchit en direct sur la critique de l'image, ce que le cinéma ne fait pas du tout. Et bon, la littérature a oublié de le faire à un moment donné. Donc je pense que les arts graphiques, les beaux-arts, les installations qui sont ce qu'il y a de plus intéressant actuellement en Turquie.
Est-ce qu'il y a un roman emblématique qui raconte cette période de la guerre d'indépendance gagnée, évidemment ?
Alors oui, il y a un roman emblématique qui s'appelle « La chemise de feu » de la romancière Halide Edib, qui est un roman écrit à chaud, donc entre le reportage et le roman finalement. Donc c'est un texte qui garde toute son actualité, qui est très vif, bien mené, je pense, qui a été écrit dans des conditions difficiles de guerre. Ça se sent et ça lui donne toute sa valeur.
Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, il y a dans le roman turc une forme de critique de cette période qui pourrait sous-tendre une éventuelle idéologie politique ?
Je dirais que la plupart des romans évitent de s'attaquer à ça. Et bon, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément d'ancrage dans les années 20 ou 30 dans le récit tel qu'il est composé. Mais bon, il y a au moins un roman de Hakan Günday, qui est un auteur très subversif, qui s'appelle Ziyan, les ruines, où il raconte le service militaire et le poids vraiment du kémalisme d'État dans la formation militaire, dans le formatage des esprits. C'est un texte assez extraordinaire et assez rare.
Merci Timon Houdine.
Merci Eric Bataillot.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour Cemren Altan.
Bonjour Eric Bataillon.
Pourquoi les progressistes en Turquie se sont-ils intéressés à la peinture dans les années 1900-1920 ?
C'est une question qui déduit déjà que les progressistes se sont intéressés à la peinture. Disons que c'est devenu un champ où certains types de communication étaient plus possibles. Et l'aspect de la peinture qui donne une certaine créativité imaginée, qui peut donner une sorte de réalité à certains pensées. Et c'est aussi un accès très facile, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de savoir lire et écrire. Enfin, c'est le contexte aussi pour les images dans tous les cadres historiques du monde entier. Mais dans ces moments-là, en fait, ça commençait à être un peu plus institutionnalisé. Il y a eu des peintres qui ont été envoyés en Europe et qui ont appris à faire avec ces techniques. Donc à ce moment-là, à la fois, donc, ils étaient encouragés par les subventions, par les, orientés vers l'éducation de ce type de peinture. Et eux-mêmes aussi, ils ont voulu légitimer cette démarche et essayer de servir aussi, communiquer l'aspect, par exemple, certaines scènes de la Nouvelle Nation.
Vous voulez dire, par exemple, que c'était une façon d'informer, finalement, des populations qui étaient majoritairement analphabètes ?
En effet, il y avait un problème de lecture. C'est un moyen très efficace de communiquer le contenu. Dans un premier temps, pour communiquer dans le présent, et après, pour aujourd'hui, c'est de se souvenir, devenir la mémoire du passé. Donc, double fonction.
Et parmi les efforts des autorités de l'époque, il y a la création d'ateliers, notamment l'atelier Chichli.
Oui, en effet, en fait, c'est un atelier qui permet aux artistes de travailler. Et puis, donc, il y a une spécificité de cet atelier. C'était un atelier qui était fait pour faire des peintures de guerre et de militaires, ce qui a permis donc de multiplier les scènes de guerre. Ça a été facilité à la fois dans le terme de production et aussi par la suite des expositions à l'étranger.
Qu'est-ce que c'est qu'être un peintre national ?
Alors ça, c'est une question en fait qui a été soulevée et qu'il y a eu des réponses différentes selon la différente période de la République. Ça peut renvoyer à multiples compréhensions. Au début de la République, le peintre national, ça renvoie à l'idée qu'un peintre peut relier à la fois les techniques miniaturistes et aussi faire des thématiques peut-être qui reprend l'actualité de l'époque, notamment les peintures de paysannes, etc. Ça renvoie à être national. Par la suite, l'idée de national, comment est-ce qu'on peut être national et international, ça change. Ce qui est peut-être en commun, c'est qu'il retrouve que dans la culture locale, l'expression de la culture locale visuellement peut être une référence pour être national.
Et aujourd'hui, la peinture peut-elle explorer tous les sujets ? Est-ce qu'elle est libre ? Est-ce qu'elle est parfois instrumentalisée ?
Alors aujourd'hui, disons que dans les cadres officiels, il y a beaucoup de thématiques qui peuvent être abordées, mais certaines images restent, protégées. Notamment, par exemple, les portraits de Kemal Atatürk, en fait, où il y a aussi peut-être une sorte de tradition de sacré, mais il y a quand même une reprise des références qui étaient intouchables avant, notamment le drapeau ou les éléments du drapeau, etc. Donc, c'est pas facile de dire oui ou non. C'est dans certains cadres. Après, les artistes aussi, ils créent pas mal d'expositions alternatives. Donc, on peut trouver des artistes qui ont quand même déconstruit et joué sur certaines images ou icônes qui sont intouchables, même s'il y a eu parfois des conséquences juridiques.
Donc, pour la peinture, mais aussi peut-être pour la sculpture.
C'est-à-dire que, oui, peinture et sculpture, en fait, selon le contenu, il y a quand même beaucoup de diversification, mais il y a des éléments qui restent intouchables, tout au moins d'une manière grand public. Après, dans les petits cercles, il y a des propositions intéressantes.
On peut se lâcher, comme on dit.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a eu des artistes, en fait, qui ont eu cette démarche très sérieuse de travailler, reprendre, faire le relecture de l'histoire de l'art turc du début de la République, un petit peu différente de leurs précurseurs, en fait, qui voulaient plutôt être au service du discours de la nation. Ils ont été aussi relativement plus critiques de ce qui était proposé. C'est eux qui sont plutôt déconstruits, plus que d'autres personnes, en fait, qui n'est pas tout à fait sensible, attentive à l'art.
Vous diriez qu'aujourd'hui, l'art en Turquie est un art vivant, la peinture, la sculpture, la littérature ?
Comme les artistes turcs, ils n'ont jamais eu des soutiens financiers réguliers. C'est des, entre guillemets, des artistes qui sont très engagés et qui peuvent parfois créer eux-mêmes des cadres où ils peuvent produire et avoir accès à un public. Je trouve que leur condition de vie et économie est très, très, très souffrante, mais ça ne les empêche pas. Donc il y a un certain dynamisme qu'on ne trouve pas peut-être dans d'autres pays.
Cemren Altan, merci.
Merci Eric Bataillon.
Bangir Bangir, extrait de l'album éponyme de la chanteuse pop-rock turque Gülşen. Qu'écrit la presse régionale cette semaine ? Eh bien, nous retrouvons nos correspondants au Caire et à Jérusalem pour lire les grands titres des journaux. Alexandre Bouchanti, bonjour.
Oui, bonjour.
Et bonjour Michel Paul.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
À la une cette semaine, la violence en terre palestinienne, mais pas pour les mêmes raisons. Alexandre, ce que commente la presse arabe, c'est la grève générale palestinienne.
Oui, elle est largement commentée. Selon les journaux, c'est une grève qui a été provoquée par la diffusion mercredi d'une vidéo d'un jeune Palestinien, Ordaï El-Tamimi, tué par la sécurité israélienne après avoir attaqué les gardes d'une colonie de peuplement proche de Jérusalem. Les Palestiniens ont vu dans les derniers instants de Tamimi un acte de bravoure, puisqu'il continuait à tirer avec son petit pistolet alors qu'il était criblé de balles. La presse indique que Tamimi est devenu un symbole de courage et de résistance qui a enflammé les Palestiniens qui se sont mobilisés pour exprimer leur ras-le-bol par des manifestations, une grève générale, mais aussi des appels à la vengeance. Plusieurs analystes estiment que cet incident pourrait être le déclencheur de la troisième intifada ou soulèvement palestinien. La précédente intifada avait eu lieu en 2000 après qu'Ariel Sharon et ses gardes eurent forcé la mosquée Al-Aqsa. Pour Nassif Hitti, l'ancien ministre libanais des Affaires étrangères, tous les ingrédients d'un nouveau soulèvement sont réunis. Pas de perspective de paix, une direction palestinienne faible et divisée et une droite israélienne menant une politique agressive dans les territoires palestiniens. Pour Nassif Hitti, le sommet arabe d'Alger devrait chercher à réunifier la direction palestinienne et à agir internationalement pour relancer le processus de paix.
Côté israélien, Michel Paul, on constate que la Cisjordanie et Jérusalem-Est sont toujours en ébullition. La répression de l'armée israélienne est très forte, cette fois contre les extrémistes juifs.
Oui, c'est le sujet qui fait couler beaucoup d'encre ici en cette fin de semaine. Le quotidien Haaretz le souligne, en tout juste 10 jours, on dénombre plus de 100 cas de violence d'extrémistes juifs contre des Palestiniens en Cisjordanie. Pour le quotidien de gauche qui cite une source sécuritaire, contrairement aux idées reçues, ces actes ne sont pas le fait d'un groupuscule de jeunes fanatiques, mais ils sont perpétrés également par des adultes, des femmes et même par des enfants. Les médias relatent de nombreuses attaques de ce genre, mais ce qui retient plus particulièrement l'attention des journaux en cette fin de semaine, Eric, c'est un incident au cours duquel des extrémistes israéliens s'en sont pris à des militaires à coups de pierre et de gaz lacrymogène, blessant notamment un officier et un soldat. Parmi les assaillants se trouve d'ailleurs un soldat qui a été arrêté. Les spécialistes de la question parlent de l'impunité dont jouissent ces jeunes extrémistes en Cisjordanie. Ces actes sont le plus souvent condamnés par l'ensemble de la classe politique israélienne, mais il n'y a pratiquement jamais de poursuites engagées contre ces fauteurs de troubles.
Alexandre, la francophonie au secours de la culture au Liban, selon un reportage.
Oui, tout à fait. Il s'agit d'un festival du livre francophone tenu à Beyrouth grâce au Centre culturel français. Alors, la première manifestation d'envergure depuis la crise économique de 2019 indique le reportage d'Ashaq Al-Awsat. Le festival réunit des célébrités de la francophonie comme l'écrivain marocain Tahar Ben Jelloun et le penseur sénégalais Souleymane Bachir Diagne. Le but est de redonner à Beyrouth sa place de capitale culturelle du monde arabe. Un dicton arabe des années 60 disait « On écrit à Bagdad, on publie à Beyrouth et on lit au Caire ». Aujourd'hui, on cherche plus simplement à attirer les voyageurs vers le Liban, plongé dans une crise politico-économique qui semble inextricable.
Michel Paul, vous retenez deux autres sujets principaux dans la presse israélienne.
D'abord, bien sûr, les élections du 1er novembre prochain. Les deux grands blocs politiques sont toujours ex aequo selon les sondages. Mais ce que l'on remarque, c'est que l'extrême droite et sa figure de proue, Itamar Ben-Gvir, un député qui prône le suprémacisme juif, s'envole au détriment du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Alors, à un peu plus d'une semaine des législatives, le Premier ministre israélien Yair Lapid propose au chef de l'opposition un débat. Netanyahou n'a pas encore dit oui. Et un autre sujet aussi dans la presse de cette fin de semaine ici, Ronen Bergman, le spécialiste numéro un des renseignements militaires, affirme dans Yediot Aharonot que la Russie diminue sa présence militaire en Syrie. Les Russes ont notamment retiré leur batterie anti-aérienne S-300, laissant ainsi le champ libre à l'aviation israélienne. Pour le journaliste, cela devrait permettre de revoir la stratégie israélienne en Ukraine. Pour d'autres commentateurs, l'utilisation de drones iraniens sur le théâtre d'opérations ukrainien pourrait inciter Israël à se montrer plus actif dans son assistance militaire à Kiev.
Et l'image que vous nous proposez, Michel ?
Eh bien, c'est la photo du point de passage de Nakoura, ou Rosh Hanikra en hébreu, entre Israël et le Liban. C'est là que devrait être signé dans les tout prochains jours l'accord sur le gaz et les frontières maritimes entre les deux pays, un sujet qui fait désormais partie de la campagne électorale israélienne et qui fait notamment l'objet d'un débat à la Cour suprême israélienne à la demande de la droite.
Merci Michel et merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI mise en onde et réalisée par Mathias Golshani, à retrouver sur le site de la radio RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous parlerons de la situation économique et sociale catastrophique au Liban avec un exemple, celui de la production et de la distribution d'électricité, thème d'un article du géographe Éric Verdeil dans le numéro 56 de la revue trimestrielle Moyen-Orient qui est désormais disponible et l'on parlera évidemment de cet accord sur les frontières maritimes entre Israël et le Liban. À demain donc, prenez soin de vous.